Et je vous proposerai donc une minute de silence, si vous voulez bien vous lever. Merci. Bien, je pense que s'il avait été là, il n'aurait pas manqué de souligner le sel qu'il y a à faire une minute de silence pour un séminaire consacré à la parole, mais ça aurait été à lui de le dire.
Bon, eh bien nous allons donc continuer avec un autre truc. D'abord un autre truc. Alors, c'est Nadine Nathalie Cordova qui va nous parler d'un autre truc. Il faut que je te présente, Nadine.
Oui, normalement, oui, si.
Psychanalyste à Paris. Et puis quoi? Tu as été à eux?
Je suis encore.
Tu es encore à eux? Elle est encore à eux, excusez-moi. J'ai pas répété, j'aurais dû répéter. Donc je suis entre des aveux, là. Je suis extrêmement impressionnée. Donc elle est à eux. Voilà. Tu veux que je dise quoi encore?
Ça va, c'est bien.
Bon, voilà.
Il n'y a pas d'autres trucs.
Il n'y a pas d'autres trucs.
Non, c'est bon. Vous entendez, là? Oui.
Oh, ça marche. Oh là là, on s'est modernisé, c'est incroyable.
C'est impressionnant.
Maintenant, on a des micros qui marchent.
Alors,
c'est bien.
Alors, pour traiter la question qui nous intéresse, je me suis appuyée sur une citation du séminaire Au Pire. Alors, la voici. Ce qui est dit n'est pas ailleurs que dans ce qu'on entend. C'est ça la parole. Le dire, c'est un autre truc, c'est un autre plan, c'est le discours. Donc voilà la citation de Lacan. Alors si j'ai choisi ce passage, c'est pour plusieurs raisons. D'abord, il me semble qu'il fait écho au titre de notre séminaire de cette année. En cherchant à cerner le réel, Lacan, dès les années 70, modifie sensiblement ce qu'il en est de la fonction de la parole. La parole et son dire ramassent donc en quelques mots un tournant. D'ailleurs, le séminaire Au Pire, couplé avec les entretiens à Sainte-Anne sur le savoir du psychanalyste, a une place, je pense, spéciale. Ces deux séminaires répondent à fonction et champ de la parole et du langage. Les nœuds borroméens y font leur entrée, et le dire prend consistance comme substantif. De plus, dans les murs de Sainte-Anne, c'est pendant un entretien que la langue naît d'un lapsus. Et pour couronner le tout, les trois points de suspension de Au Pire ont de quoi nous interroger. Alors, si Lacan utilise le mot peu précis de truc, c'est peut-être pour souligner quelque chose de plus réel dans la parole. Et j'ai remarqué en effet que Lacan utilise volontiers truc à partir de ces années-là, quand il approche un point important. Et pour l'anecdote, certains doivent se souvenir d'une émission de magie très populaire dans les années 70 qui s'appelait il y a un truc. En ce qui concerne l'analyse, truc est un mot qu'on entend souvent. Des analysants l'emploient quand ils n'arrivent pas à désigner ce qu'ils ressentent, ou encore quand ils soupçonnent qu'il y a une énigme, quelque chose de caché. En un mot, ils l'utilisent quand il se passe quelque chose dans la cure. Cet analysant, en parlant de sa famille, déclare « J'ai peur de trouver une grande vérité chez vous. Il pourrait se passer un truc où tout éclaterait. » Une autre avance. Il y a sûrement un truc dans mon enfance. Ça expliquerait pourquoi je souffre. Et ce garçon de 7 ans, quant à lui, arrive en disant « Aujourd'hui, j'ai pas de truc à dire. » Et quand je lui demande ce que veut dire « truc », eh bien, un truc, c'est un truc à dire. Et tous les gens de la Terre, tout le monde a un truc. Et tout le monde a quelque chose qui ne sait pas ce que c'est. Et enfin, cette femme rompt le silence qui l'angoisse. Quand j'ai pas de truc à dire, je suis vide. Truc, ce n'est pas seulement le mot qui manque. Ça dit plus que ça. Ça laisse entendre ce que l'on ne peut pas dire. Alors avec le titre du séminaire, nous nous trouvons donc à la fois dans le champ de la doctrine et du dispositif analytique avec la parole singulière et son dire. Je vais donc essayer d'articuler ce qui lie et oppose le couple que forment parole et dire. Enfin, le couple que forme la parole et son dire, avec le possessif « son » qui nous invite peut-être à y entendre une proximité. Comme on le sait, la parole du petit homme ne peut pas naître sans une rencontre. Il lui faut naître deux fois. Et je profite de l'équivoque homophonique de « son » pour en dire quelques mots. En effet, celui qui ne parle pas encore vit dans un univers de sons discontinus, perçu à travers les mots, et les silences de ceux qui le reçoivent. La vie, ça commence donc avec ce qui ne fait pas sens, mais impression et résonance. Pour que se produise la rencontre inaugurale avec la parole, il faut compter sur ses effets mystérieux. Il faut compter sur la qualité, la tonalité, le timbre de la voix, sur la façon de dire, sur l'engagement de la parole de l'autre incarné. Et derrière les soins, le regard, la voix, les silences et les mots, l'infance va accueillir, ou pas, la parole avec ce qu'elle contient de désir et de jouissance. Petit à petit, l'enfant va trouver sa place, avoir un corps, et la chaîne parlée va se constituer au fil des jours. C'est donc à partir de ces fragments que va surgir autour d'une bobine et d'un fil le couple phonétique O, A, que Freud a surpris chez son petit-fils. C'est la preuve que le petit sujet est entré dans le langage et qu'il prend la parole. Encore faudra-t-il qu'un tiers, ici sa mère, interprète ces deux voyelles comme des mots, forda, partir, revenir, pour que ça prenne sens pour lui. Au fond, l'enfant s'entraîne à supporter l'absence et le silence de l'objet pour devenir un sujet avec son désir. J'avais oublié la note de bas de page de Freud en Au-delà du principe de plaisir, qui précise que l'enfant va jouer aussi avec son image dans le miroir pour la faire disparaître et réapparaître. C'est toujours à partir des effets constatés que l'on peut conclure que quelque chose a eu lieu. Alors si Lacan a d'abord situé la parole dans le champ symbolique du langage, elle prend en fait corps dans le champ bien plus large de la langue. Si la fonction maternelle est réduite à transmettre la parole, celle-ci passe un trou, là où il n'y a pas de son, et passe des traces de jouissance. car la parole nouée au vivant excède ce qu'elle veut dire. Dépasse le parleur, dit Lacan. Car elle contient des débris, du déchet, toutes sortes d'effets qui sont pris et pas tout pris dans le symbolique. La parole draine réel, imaginaire et symbolique. C'est peut-être là, dans ce nuage, que se situe ce qu'il en est de la parole et de son dire. J'en profite ici pour souligner la place que prend la contingence dans cette rencontre inaugurale et tout au long de la vie, que ce soit du côté des marques de jouissance, elles, fixées, dont le sujet sera plus ou moins embarrassé, ou que ce soit du côté du dire, lui, non programmé. Ce qui nous amène à la parole en analyse. Faut-il rappeler que la parole est l'instrument de la cure, qu'elle est l'objet d'élaboration de l'analysant et l'appui des interventions de l'analyste? Et pourquoi pas ne pas le rappeler encore, puisqu'il n'y en a pas d'autre? Rappeler que la parole en analyse a un statut bien particulier. Dans le dispositif, l'analyste invite l'analysant allongé à répondre à la règle fondamentale de l'association libre. Et le blabla, c'est du sérieux pour l'analysant. Car la parole, c'est ce qui le représente, puisque la dimension du corps est réduite. Prendre la parole en analyse, c'est être parlant. C'est chercher le truc qui se cache derrière les symptômes qui mènent à l'analyse. Et l'analysant va découvrir une parole intime, des signifiants qui insistent et des éléments de la langue de son enfance. Il va déplier sa parole pendant de nombreuses années en présence d'un drôle d'interlocuteur dont il ne voit pas la bobine, le temps de la séance. Car l'analyste ne répond pas du côté du sujet, il est semblant d'objet, de l'objet qui gouverne l'analysant. Drôle de place. L'analyse permet donc au sujet de passer à une parole analysante, lourde de vérité, de mensonges, de contradictions. Une parole qui va faire trembler, fondre les certitudes et les mirages du sujet, avec le paradoxe que la libre association pousse à chercher la vérité, toute la vérité qui libérerait l'analysant de ses symptômes. Il ne se trompe pas vraiment, mais la guérison n'est pas là où il l'attend. Alors si la parole est fondatrice du sujet, elle est trompeuse et menteuse, comme on le sait, elle ne dit donc pas toute la vérité. Si elle nous trompe, c'est parce qu'elle véhicule du sens et a un sens quand elle se déroule. Pourtant, s'entendre dire certains mots à haute voix a des effets. C'est un premier pas. L'analysant, écrit Lacan dans le discours de Rome, réévalue la vérité de son passé à la mesure de son action nouvelle. Mais la route est longue pour l'analysant, car la vérité telle qu'il l'appréhende est alors encore rassurante. L'analyste, lui, doit tenir le cap. Alors ces petits éclairs de vérité, même s'ils s'évanouissent, vont porter leurs fruits. Ils creusent inexorablement un sillon. L'analysant va rencontrer un moment le mur de la castration et son effet de satisfaction. Si ça se creuse jusqu'à la butée, c'est que la parole opère. Parce que l'analyste la donne, juste le temps pour qu'elle résonne, se taise, voire qu'elle prenne à peine le temps de son envol. Et l'analyste la coupe. La parole ainsi, rythmée, ponctuée, brisée, stoppée, poursuit son chemin hors de la cure. Revenons à Oupir. Lacan définit la parole comme ce qui est dit qui n'est pas ailleurs que dans ce qu'on entend. Ce n'est pas nouveau puisque Lacan abordera ce point dans le séminaire 3, en soulignant que, quelle que soit la structure, quand le sujet parle, il s'entend lui-même. Il entend le son de ses propres paroles, jusqu'à, pour certains, les entendre venus d'ailleurs. Mais dans les années 71-72, c'est la jouissance qui intéresse Lacan. Et dans ce qu'entend l'analyste, lui, dédit de l'analysant, il est toujours question de la jouissance, et non de sens. Et c'est de ça dont il s'agit dans l'interprétation. La parole analysante parle donc de jouissance, fabrique du signifiant pour en parler, pour essayer de traduire en parole ce qui existe et qui ne peut pas se dire. Et en parlant, ça en rajoute. Ça jouit dans la parole même, jusqu'au moment où il y aura une rupture. À force de chercher le sens, la parole perd son sens, jusqu'au moment où il choit, le temps d'un instant. Alors la parole est bien l'instrument de la cure parce qu'elle est un effet de comblement, comme dit Lacan, du « il n'y a pas de rapport sexuel », c'est-à-dire du réel pris dans le langage. La parole définit la place de la vérité qui supplée à cette inexistence. Elle approche donc quelque chose du réel. Il faut faire un pas de plus pour saisir ce qui opère dans l'analyse, puisque Lacan met en tension la parole et le dire dans le passage que j'ai cité. Alors je ferai d'abord un petit détour. Je me suis demandé au départ de ce travail de quoi parle-t-on quand on parle du dire. Enfin, de quel dire il s'agit. Combien de fois Lacan parlera-t-il de son dire? Dans l'acte analytique, il évoquera déjà que l'acte a lieu d'un dire. Puis il évoquera le dire de Freud, de Cantor, du dire de l'analyse comme interprétation, du dire de demande de l'analysant, du indire, il dira le sexe est un dire. Enfin, autant de déclinaisons qui laissent penser qu'il y en a plusieurs. N'est-ce pas plutôt souligner qu'à chaque fois qu'il y a un dire, il est fondateur, car il fait événement, et ce, dès l'entrée dans le monde de la parole. Alors si Lacan peut dire « mon dire », ou nommer les dires, c'est que justement, le dire, c'est un autre truc, c'est un autre plan, c'est le discours. Et le dire n'est donc pas dans ce qui s'entend. Lacan le souligne dans le savoir du psychanalyste, quand il avance que sa parole d'enseignement ne se confond pas avec son discours. Le dire, lui, s'articule autrement. Il convoque donc les quatre lettres du discours, petit a, s barré, s1, s2, et les quatre places. Avec le dire, ça s'organise selon un ordre précis autour de la jouissance, de la vérité, du semblant et du plus de jouir. Le dire se place donc au niveau du lien social. C'est dans la logique des discours que le dire s'infère des dits, qu'il se démontre et produise des effets. La parole y est prise. À peine quelques mois après, ou pire, et le savoir du psychanalyste, Lacan écrit dans l'étourdi l'énoncé bien connu, que je vous rappelle, qu'on dit reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s'entend. Cet énoncé qui a l'air d'une poupée russe suppose un acte, qu'on dise, lequel dépend du dire, et il est imprévisible. Alors je rajoute que le « qu'on dise » dépend du dire, car Lacan précise dans encore qu'il n'a pas écrit que le dire reste oublié. C'est le « qu'on dise » qui reste oublié au moment où c'est dit. Le dire est du côté de l'existence, il se produit ou pas. L'enfant autiste nous enseigne un peu quelque chose quand le dire n'a pas lieu. Quand les mots ne sont que des sons qui persécutent, quand il n'a pas le minimum de la parole. Celui qui a le mot évite la mort, dit Lacan dans le discours de Rome. il évoque là le statut du mot comme ce qui est le plus vide de sens, l'effet le plus réel du symbolique. C'est déjà un effet. Et on pense à la parole réduite à son trognon avec le loup dans le Carobert. Et c'est peut-être cet effet que l'analysant a à rencontrer. L'effet le plus réel du symbolique, un mur. Si le petit homme franchit le mur du son, c'est qu'un dire inaugural l'en sort et le fait entrer dans la possibilité d'un condise, grâce ou à cause du mur infranchissable de la castration. Alors je me suis demandé pourquoi Lacan situait, toujours dans le discours de Rome, l'analyste au-delà du mur du langage. Alors il revient sur ce point dans le savoir du psychanalyste. Il explique que derrière le mur, ce sont les quatre lettres du discours qui permettent de mettre du sens à la pratique. Et l'analyse doit également se situer par rapport aux places du discours, qu'il appelle les quatre points cardinaux du discours. Il y a là un savoir sur la structure que l'analyste a à connaître. Derrière le mur, il y a l'impossible. Derrière l'analysant, il y a l'analyste comme semblant. Le dire est donc la condition du discours et ce qui peut se produire à partir de la ronde des discours. Alors la psychanalyse est donc une pratique du dire, qui laisse chance à un condise, à la production d'une parole qui passe de la vérité au dire et qui fasse événement. Il n'y a donc pas de parole qui fasse événement sans son dire. L'effet, c'est qu'elle peut apporter quelque chose de nouveau dans le monde, dans la psychanalyse et plus modestement au niveau subjectif. Alors si certaines paroles sont vaines, d'autres inscrites pour toujours, certaines en revanche font d'un fait par hasard, de temps en temps. Et c'est ça un dire. Celui-ci ouvre sur ce qui n'est pas écrit et sur ce qui s'écrit dans la cure. Il y a du possible au présent et dont les effets en revanche ne sont pas calculables. Avec le dire et le discours, Lacan introduit une nouvelle définition de la structure. En effet, toujours dans Au pire, Lacan affirme « il n'est de forclusion que du dire ». Et je crois que c'est l'unique fois où il emploie cette expression. On sait à quel moment et pour quelle structure le terme de forclusion est utilisé. Dans la question préliminaire, la forclusion concerne l'absence d'un signifiant dans la psychose. Or, avec le dire, la forclusion ne concerne plus un signifiant, mais le discours. Il y aurait là une généralisation de la forclusion. C'est donc à partir du discours qu'on peut penser la structure en termes de place et de lettres. Le truc est dans la structure. Et quand Lacan parle du discours dans les murs de Sainte-Anne, il évoque en même temps ceux qui y sont internés. Les murs de Sainte-Anne, c'est une façon de protéger, de se protéger des effets délétères du hors-discours qui ne fait pas lien. Quand la parole erre, quand l'objet n'est pas du semblant, quand les lettres sont libres. Revenons alors aux trois points de suspension que Lacan introduit dans le titre du séminaire Au pire. Pourquoi ne pas les prendre au pied de la lettre ? Enfin, au pied du point, puisque là, il n'y a que point, espace. Cette discontinuité au niveau de la typographie que nous offre la grammaire, nous la retrouvons justement dans les phrases interrompues de Schreber, que Lacan évoque dans la dernière leçon du séminaire Au pire. Schreber témoigne qu'il ne peut plus produire de dit. Ça reste suspendu. Lacan, quant à lui, place les points de suspension au début du titre, en laissant une place vide, qu'il va articuler avec le « il n'y a pas de rapport sexuel ». Alors si cette proposition s'énonce comme vérité, ce n'est donc qu'un mi-dire comme toute vérité. Ainsi, qui dit mi, dit l'autre côté du mi, que sont les trois points. Et Lacan, pour y répondre, propose de basculer la première lettre de pire pour passer au dire et localiser la place du dire. Et logiquement, il le dit, mais il ne l'écrit pas. Car le dire se produit de ce qui ne peut pas s'écrire. Il échappe. Alors, est-ce que Lacan n'illustre pas, par ce mouvement de bascule, celui du changement de discours dans l'analyse, effet du dire qui existe au dit? C'est du non-rapport sexuel que s'élabore un discours. Alors, pour conclure, le chemin du dire n'est pas terminé, et par ricochet, celui de la parole. Car Lacan va enfin lui donner toute sa dimension avec les nœuds borroméens. Il cherche à démontrer la complexité de la structure du par-lettre, jusqu'à affirmer que c'est le dire qui noue les trois registres. Au fond, ce qu'amène le dire, c'est que la parole n'est pas un miroir, pour utiliser le néologisme de Lacan. Quand la parole fait nœud, elle témoigne du dire, il y a donc du mouvement, du jeu possible, malgré ce qui est fixé par la structure et dans la structure de chacun. Il y a une place pour se mouvoir, pour que la parole vive. Alors si chacun fait son truc, son bricolage à partir de ce qu'il a reçu de la langue, il y a parfois dans le nuage quelque chose qui ne passe plus et parfois même qui se défait. Et la cure peut permettre, grâce au dire, de bouger un peu les ficelles, de traiter un peu autrement ce qui ne fait pas lien, ce qui parasite. Et dans l'analyse, toucher par la parole ce quelque chose de la jouissance qui commande le sujet. Et ça a des effets dont on ne sait rien avant qu'il ne soit. Voilà, je vous remercie.